Marc Israël Selem est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Marc.
Bonsoir.
Marc, vous êtes à Jérusalem, vous êtes photographe en chef du Jérusalem Post. Vous couvrez la guerre, évidemment, pour un grand journal israélien. Et j'ai vu ce matin certains de vos clichés pris à Tel Aviv. Avec une femme qui était face à son immeuble effondré. Pas une maison de Métoula. Pas une voiture. Un immeuble. Et elle est assise sur un banc et elle regarde sa maison effondrée. Et je me suis dit, mais attends, on ne pourra pas tenir. Ça me semble... c'est des dégâts qui sont bien au-delà de ce qu'on avait connu face au Hezbollah ou face au Hamas, mais c'est vous qui étiez sur place, donc vous allez peut-être me dire, non, ben, tu t'es laissé emporter par les clichés. Ouais. Mais en voyant ça, en plein Tel Aviv, je me suis dit que c'était quand même des dégâts qui étaient très, très importants, mais vraiment importants. Je crois d'ailleurs que les gens les ont vus sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, c'est sûr que les bombes iraniennes, c'est pas les bombes du Hezbollah ou les bombes du Hamas, puisqu'elles sont 10 à 100 fois plus puissantes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand un missile tombe, c'est énormément de dégâts. Alors moi, je suis surpris par le nombre de blessés et par le nombre de tués. Vu l'impact que j'ai vu aujourd'hui et la désolation que j'ai pu voir en arrivant sur les lieux, je ne vais pas dire que c'est un miracle, mais il y a eu très peu de blessés en proportion par rapport à l'impact. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens en fait ont compris qu'il fallait écouter les consignes de l'armée et justement rentrer dans les bunkers ou dans les mamades pour pouvoir rester en vie. Et c'est assez impressionnant quoi de voir, déjà quand on arrive, tout est calciné. Il y a une photo avec une voiture, la photo elle est complètement calcinée de l'intérieur et de l'extérieur quoi. C'est impressionnant, ça choque. J'ai ce métier plus de 25 ans et des dégâts pareils, c'est la première fois que j'en vois.
En territoire israélien, parce que...
À Tel Aviv.
Ah oui, à Tel Aviv. Quelle rue d'ailleurs? Moi j'ai même eu l'impression que c'était pas dans la mairie.
C'est au coin de Allenby et Ben Yehuda.
Ah voilà. Oui. Ah, je vois exactement.
Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a le fameux bâtiment en face où il y a marqué Air France au-dessus. Et ce qui se passe, c'est que j'ai vu des explosions de bus, j'ai vu des missiles tomber à Ashdod, à Ashkelon, dans le nord. Mais là, c'est impressionnant, quoi. Et on se rend compte de la puissance de l'arsenal iranien. Et c'est flippant. C'est assez effrayant même. Et justement, tu as vu cette photo de cette dame, elle me racontait que en fait, elle voulait pas aller dans l'abri. Et c'est son fils qui a dit, viens maman, on y va quand même, on est réveillé. C'est pas grave, il est 3h30 ou 4h du matin, je me rappelle plus à quelle heure c'était. Et elle a décidé d'y aller. Et si elle serait restée chez elle, elle serait plus là aujourd'hui.
Et d'ailleurs, comment les gens que vous rencontrez vous parlent? Parce que nous ici, loin, à Paris... On a aussi toutes les vidéos des gens qui chantent dans les abris. Am Israël Chai, Yehud Yoter Tov, vous voyez exactement de quelle vidéo je parle, on en voit plein. D'ailleurs, c'est pas sûr que vous avez vu les miennes, tellement il y en a. Et les gens donnent l'impression d'avoir le moral. C'est quoi? Vous dites que c'est des retomontades? Parce qu'on sait... Ouais, dites-moi.
Non, en fait, je pense que on a un besoin de s'auto-remonter le moral. En fait, le peuple israélien, c'est un peuple qui ne se laisse pas tomber. Ok, on se prend des missiles, mais c'est une bonne chose cette attaque contre l'Iran. Et en fait, on se remonte le moral. Et quand on va dans les abris et qu'on entend les booms, parce que les booms sont impressionnants, je peux vous dire que de Jérusalem, j'ai entendu le boom qui est tombé sur Bat Yam il y a 2 jours. Non. Et j'ai dit à ma femme, j'ai dit, c'est tombé. C'est pas un boom dans les airs parce que la puissance du boom elle est impressionnante et donc j'imagine les gens qui étaient dans les Miklat à côté de Tel Aviv, c'est impressionnant quoi. C'est vraiment un boom, c'est du délire et donc les gens ont besoin de se remonter le moral donc ils chantent, c'est en fait une thérapie pour contrecarrer la peur.
Et vous avez une idée de combien de temps les Israéliens s'apprêtent à affronter ça, parce que on a tous des défauts de journaliste. Bon, on pense en termes de semaines. Voilà, c'est une opération qui va durer. Mais ça peut être plus long. Hein.
Bah, En fait, c'est très facile. On fait un calcul. Les Iraniens ont à peu près 2000 missiles qui sont prêts à être lancés. Et ils ont annoncé qu'ils en lanceraient 100 par jour. Donc, on a encore 20 jours de lancer de missiles. S'ils ne sont pas ravitaillés par la Chine, la Corée du Nord ou le Pakistan, donc, parce qu'il y a aussi des opérations qui sont menées aussi en Inde et au Pakistan pour bombarder les convois qui veulent ravitailler l'Iran. Donc c'est aussi un problème qu'il faudra prendre en compte. Et je pense en fait que la guerre, déjà on parle déjà, je viens de voir il y a quelques minutes une annonce à la télévision israélienne comme quoi l'Iran demanderait peut-être un cessez-le-feu. Mais c'est encore avec un point d'interrogation, donc c'est entre guillemets, donc c'est pas sûr à 200%. Mais l'Iran a compris une chose, c'est que la technologie israélienne fait un pas dessus, puisque quand il lance un missile d'un endroit, Israël sait exactement où il a été lancé, et quelques temps après, le site est détruit. Donc voilà, et puis en plus, il y a l'Amérique qui arrive venir avec ses fameux avions, les BD. Les B, j'ai oublié le nombre, mais bon, c'est des bombardiers avec la bombe qui peut perforer la centrale nucléaire à l'intérieur. Donc, les Iraniens comprennent que ils ont perdu la donne sur ce coup-là. Après, combien de temps ça va durer? On n'est pas devin, on est journaliste, mais voilà quoi, c'est inquiétant parce que justement, je vous avais envoyé une note. Israël pensait qu'il allait avoir de avec la guerre avec l'Iran, entre 800 et 4000 morts. Et en fait, ils sont un peu satisfaits des chiffres, puisque pour l'instant, on est à une vingtaine de morts, donc c'est une catastrophe, hein. Chaque mort en soi-même est une catastrophe,
Oui, mais ce n'est pas 400.
mais on n'est pas arrivé au chiffre dans lequel ils avaient prévu, quoi.
Et vous nous confirmez l'impression générale que c'est plutôt le consensus sur cette guerre ou non, ça cache, parce que quoi, cette Israélienne s'est refracturée. Si on dit, si on prend vous et moi, on va dire mercredi dernier. On était revenu à une société très très fracturée avec des oppositions qui touchent même parfois à des états de détestation d'un camp à l'autre. Et là, on a plutôt l'impression que le consensus est revenu. Comment est-ce que vous définiriez ça?
C'est typiquement aux Israéliens, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui nous tape dessus. Alors là, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Et on est tous la même chose, on est tous à la même échelle et tout le monde va céder. Il n'y a pas de ultra-orthodoxes qui font pas l'armée. Il n'y a pas de, comment ça s'appelle, de gens de droite ou de gens de gauche. Tout le monde cède contre l'ennemi qui est l'Iran. Et puis, il faut pas oublier aussi une chose, et c'est marrant parce que les esprits israéliens, si on l'oublie un peu, c'est que on a toujours des otages à Gaza et on en parle beaucoup moins en ce moment. Et voilà, mais c'est très, très israélien. En fait, on a un ennemi commun et l'ennemi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout le monde se serre les coudes, tout le monde s'entraide. Alors après, quand ça va se calmer, on retournera à la scission qu'il y a entre les Israéliens et ça reviendra au goût du jour. Mais pour l'instant, c'est. Et puis quand on voit les images,
C'est
c'est
comme dans les périodes de
impressionnant, quoi.
réserve. Ce que nous disent ceux qui suivent les soldats, ils disent quand ils sont en période de réserve, y a pas entre eux, ils discutent pas. Ils se disputent pas.
Déjà, l'armée, on n'a pas le droit de parler de politique, donc parce que ça évite beaucoup de problèmes. Maintenant, tout le monde parle un peu de politique. J'ai fait des années de réserve, et chacun a ses idées. Quand on va s'endormir le soir, on dit Netanyahou, c'est un con, Netanyahou, il est génial. Voilà, ou Lapid, c'est un idiot fini, ou Lapid, il va sauver Israël. Chacun avec ses idées, quoi. Et on en parle un peu avec nos amis proches qui sont dans notre bataillon. Mais de manière générale, à l'armée, on évite de parler politique. On est là pour une mission et ça permet de garder une meilleure bonne humeur au sein du groupe et ça évite des scissions aussi.
Marc Israël Selem, photographe en chef du Jérusalem Post, parlé en direct de Jérusalem. Merci d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci à vous.